La musique dans la peau de chagrin de Balzac, par Julien Thiersault. Ce n'est pas de la musique qui fut ajoutée naguère à la peau de chagrin qu'il va être question maintenant, mais de celle qui est contenue dans le roman même. Car Balzac, dans son désir de créer la vie en la formant par ses éléments multiples et divers, n'a eu garde d'omettre l'art de l'harmonie comme inhérent à ses plus intimes manifestations. En lisant ses livres, on en relève les traces à chaque pas. On pourrait extraire de l'ensemble de son œuvre de quoi former un tableau complet de ce qu'était en son temps, sinon la production de l'art, du moins l'idée qu'on s'en faisait dans les divers milieux de la société. La peau de chagrin, encore qu'elle ne soit pas parmi ses romans, celui où la musique tient la plus grande place, offre néanmoins à cet égard des traits multiples et caractéristiques. Relevons-y quelques-uns de ceux qu'il fournit. Dès le premier moment du récit, on la voit apparaître comme une préoccupation intime chez le personnage principal, cela même par un simple détail. Quand le jeune Raphaël de Valentin, en possession du minime héritage qui lui permettra de vivre quelques mois sans mourir de faim, va s'installer dans une mansarde du quartier latin, il apporte avec lui, pauvres épaves de son patrimoine, un lit, une table, quelques chaises, et seul objet non indispensable à la vie matérielle, un piano. Ce qu'il joue sur cet instrument, nous ne le savons guère. Sans doute, Raphaël se distrayait parfois de son labeur philosophique. Il composait un traité de la volonté en posant ses mains sur le clavier. Une seule fois, au cours de ses retours sur lui-même, il dira « J'exhalai mon malheur en mélodie. Beethoven ou Mozart furent souvent mes discrets confidents. Le choix n'était pas banal, aux abords de 1830 et du fait d'un simple amateur. » Mais ce piano va bientôt servir de trait d'union pour l'amour. Pauline, aussi pauvre que Raphaël, est désireuse d'acquérir des talents qu'il ne lui a pas été permis de cultiver, accepte que son voisin lui donne des leçons. « La petite avait les plus heureuses dispositions, » raconte le héros du livre. « Elle apprit avec tant de facilité qu'elle devint bientôt plus forte que je n'étais sur le piano. Mon piano étant le seul dont elle put se servir, elle profitait de mes absences pour s'exercer. Plus d'une fois, je suis resté attendri en entendant sa voix au timbre riche chanter les gracieuses cantilènes qu'elle composait sans effort. Souvent, ma Pauline s'exaltait en faisant de la musique. Idée de littérateur qui croit que la musique sort toute seule du cerveau de l'exécutant. Monsieur Levadet a agi sagement en faisant jouer à Pauline un morceau de Hummel. Quoi qu'il en soit, Pauline profite si longtemps de la possibilité qu'elle a de s'exercer sur l'instrument de Raphaël qu'après de longs mois, quand il remonta dans la mansarde, celui-ci la retrouva à la même place. Quand il atteignit les dernières marches, il entendit les sons du piano. Pauline était là. Ce piano est vraiment un être animé qui joue son rôle dans l'action. Parfois, la musique fait partie de la vie des personnages et constitue leur langage même. Quand Raphaël, ayant perdu son dernier écu, descend l'escalier de la maison de jeu, il siffle machinalement « di tanti palpiti » d'un souffle si faible qu'il en entendait lui-même à peine les notes délicieuses. Et quand Fedora, fuyant les importuns, veut rentrer dans sa chambre, elle fredonne une phrase de Priaque Spunti. « Je tendis les forces de mon âme pour aspirer les sons, » dit encore Raphaël. De note en note, la voix s'éleva, Fedora semble à s'animer, les richesses de son gosier se déployèrent, et cette mélodie prit alors quelque chose de divin. La comtesse avait dans l'organe une clarté vive, une justesse de ton, je ne sais quoi d'harmonique, de vibrant qui pénétrait, remuait et chatouillait le cœur. Les musiciennes sont presque toujours amoureuses. Celles qui chantaient ainsi devaient savoir bien aimer. La beauté de cette voix fut un mystère de plus. Rappelons aux lecteurs de 1929, qui l'ont peut-être oublié, qu'il y a 100 ans, les deux airs cités par Balzac étaient dans toutes les mémoires, tous deux appartenant au répertoire de l'opéra italien, « di tanti palpiti », expressive et savoureuse cantilène de Tancredi, l'œuvre des 20 ans de Rossini, et Priaque Spunti, air du matrimonio segreto de Cimarosa, dans lequel triomphait la voix rossignolante de Rubini. Aussi bien, la musique a pour Balzac un pouvoir suggestif qui la hausse au niveau des plus sublimes émanations spirituelles. La vue du lac de Bienne, quelques motifs de Rossini, la Madone de Murillo, quelques passages de nos fabliaux ont pu seuls me transporter dans les divines régions de mon premier amour. Rossini était là en bonne compagnie. Parlant peinture, l'écrivain dit ailleurs « Partageant le privilège des enchantements de la musique, l'œuvre de Raphaël vous jetait sous le charme impérieux, etc. » Selon le goût du temps, la musique italienne était à peu près la seule à laquelle Balzac attribuait cet enchantement et ce charme. Pour ses personnages, le bonheur suprême est d'assister à une représentation du théâtre italien. Quand Raphaël reçoit la nouvelle qu'il est devenu plusieurs fois millionnaire, le premier compliment d'un de ses compagnons est « Tu rallonges au bouffon ». Le fidèle Jonatas, qui s'est donné pour mission d'aller toujours au-devant de ses désirs, raconte ainsi les détails de sa vie coulant dans l'indifférence. « Le soir, monsieur va un jour à l'opéra, et l'autre jour aux Italiens. Mais non, il n'est pas encore allé aux Italiens. Je n'ai pu me procurer une loge qu'hier. » Mais bientôt, le même. « Comment ferez-vous ce soir aux Italiens ?»« Une famille anglaise qui repart pour Londres m'a cédé le reste de son abonnement, et vous avez une belle loge. Oh, une loge superbe aux premières. » Ce n'est d'ailleurs pas toujours dans la seule intention d'entendre de la musique que les personnages de la société décrite par Balzac vont se montrer ou se rencontrer dans la salle Favart. Certaines scènes du père Goriot nous ont offert maintes autres particularités intéressantes à cet égard. La peau de chagrin n'est pas sans en évoquer aussi quelques-unes. Écoutons Raphaël, accompagnant Fellera au bouffon. Là, près d'elle, tout entière mon amour, je la contemplais en me livrant au charme d'écouter la musique, épuisant mon âme dans la double jouissance d'aimer et de retrouver les mouvements de mon cœur bien rendus par les phrases du musicien. Mais Fellera n'écoutait pas. Les divines pages de Rossini, de Cimarosa, de Zingarelli ne lui rappelaient aucun sentiment. Il y a, dans la dernière partie du roman, un chapitre qui se passe pendant une représentation de Sémiramide. Tous les personnages s'y retrouvent, et d'abord, Raphaël, amené dans sa somptueuse voiture, arrive devant le péristyle du théâtre Favart. Le marchepied se déploie, il marche lentement dans les corridors de la salle, et en attendant le second acte de Sémiramide, se promène au foyer, insouciant de sa loge dans laquelle il n'est pas encore entré. Était-ce donc pour cela qu'on allait au théâtre? On n'y arrivait qu'au second acte. Fedora était là, et Aquilina, et la danseuse Euphrasie, même l'antiquaire à la peau de chagrin, jusqu'à Pauline, devenue riche elle aussi, réunie comme par hasard au même spectacle. Tous, autant qu'ils sont, pensent à autre chose qu'à la musique. Nous ne saurons pas cette fois quelle impression était causée par les fioritures de Rossini. Ça et là, dans les descriptions d'assemblées aux multiples interlocuteurs, il surgit des traits, des saillies, des boutades qui empruntent la langue de la musique. L'orgie déploya sa grande voix, sa voix composée de 100 clameurs confuses qui grossissent comme les crescendo de Rossini. Rossini, toujours. Plus loin, les alternatives de silence et de bruit eurent une vague ressemblance avec une symphonie de Beethoven. Et ce sont les propos, les opinions, les jugements. Un convive se sent fatigué des excès commis, comme ces bons bourgeois qui, après avoir entendu quelques nouvelles opéras de Rossini, condamnent la musique. Un musicien célèbre console en si bémol un homme politique de son échec. Un jugeur, qui se mouche au milieu d'une cabatine au bouffon, y crie bravo avant tout le monde et contredit ceux qui préviennent son avis. Et voici en quelques brèves répliques un dialogue qui résume bien les discours. La voix de l'homme Malibran a perdu deux notes. Non, monsieur. Si, monsieur. Oh, oui et non. N'est-ce pas l'histoire de toutes les dissertations religieuses, poétiques et littéraires? À côté de ces vérités, quelques autres aphorismes, qui ne tirent leur principe de rien de musical, méritent en leur concision d'être retenus par la mémoire de tout le monde. Toute la science humaine, une nomenclature. Faute de pouvoir inventer des choses, vous en êtes réduit à inventer des noms. Un nom, est-ce donc une solution? L'homme n'invente pas une force, il la dirige, et la science consiste à imiter la nature. Ici, je songe à Rameau, qui, en posant le principe du son, n'a pas inventé mais dégagé des lois issues de la nature. Ou encore une anecdote comme celle-ci. Un incroyable, amenant des dames à la lande après une éclipse, lui disait « Ayez la bonté de recommencer ». Et cet autre mot, dont la critique a fait en tout temps et plus ou moins implicitement l'application, c'est un grand homme, n'en parlons plus. » Sans négliger une autre manifestation de l'esprit français, fourgoutée en 1830, Victor Hugo ne dédaignait pas de s'y complaire, Berlioz non plus. Quand Raphaël apprenait qu'il avait hérité à Calcutta cette réplique, « C'est une fortune incalcutable. » Revenons à des choses plus proches de nos ordinaires préoccupations. Dans son souci de trouver partout des correspondances avec des impressions musicales, Balzac ne dédaigne même pas de les chercher dans la musique de bal. À la fin d'une nuit de fête, les convives fatigués s'endorment en unissant leur ronflement à la musique qui retentissait dans les salons. Concert inutile. À la vérité, l'écrivain qui s'étalait avec tant de complaisance sur les mérites de la musique italienne et parfois, bien que plus rarement, mettait une sorte de coquetterie à parler dignement des grands classiques, professe un dédain manifeste à l'égard des musiciens français. Aucun de ceux qui en son temps donnaient un certain essor au genre éminemment national n'est honoré par lui de la moindre mention. Par contre, et cela est plus original et non sans mérite, il arrive parfois d'évoquer les impressions de musique populaire auxquelles peu de gens prêtaient attention en son temps. Voici un épisode évocateur que retracent quelques-unes des dernières pages du livre quand Raphaël, croyant pouvoir encore rétablir sa santé, est allé respirer l'air pur dans les hautes régions de l'Auvergne. Au retour, sur sa route, il se trouve au milieu d'une fête villageoise. Il fut réveillé par une joyeuse musique. Il vit les danses de cette population joyeuse, les filles parées de fleurs, jolies, agaçantes, les jeunes gens animés, les trognes des vieux paysans gaillardement rougis par le vin. Semblables aux moribonds impatients du moindre bruit, Raphaël ne put réprimer une sinistre interjection, ni le désir d'imposer silence à ses violons, d'assourdir ses clameurs, de dissiper cette fête insolente. Quand il regarda sur la place, il vit la joie effarouchée, les paysannes en fuite et les bancs déserts. C'était l'effet du talisman. Sur l'échafaud de l'orchestre, un ménétrier aveugle continuait à jouer sur sa clarinette une ronde criarde. Cette musique sans danseur, ce vieillard solitaire au profil grimaud en haillons, les cheveux épars et cachés dans l'ombre d'un tilleul, était comme une image fantastique du souhait de Raphaël. Le croquis tracé d'une main sûre et l'évocation musicale qui s'y mêle est indiquée par des traits fortement empreints. Et quand tout est fini, c'est encore en situant l'action dans des milieux où règne la musique que le romancier dit qu'elle fut la destinée d'un des principaux personnages de son récit. Mais Fedora, oh, vous la rencontrerez. Elle était hier au Bouffon. Elle ira ce soir à l'opéra. Telles sont les dernières lignes de La peau de chagrin. C'est ainsi que, dans une atmosphère constamment musicale, Balzac a déroulé cette histoire, tour à tour imaginaire et vécue, dont la nature s'est avérée propice à s'accorder au langage sonore et qui, dès le premier énoncé, était elle-même et déjà pleine de musique. La musique dans La peau de chagrin de Balzac, par Julien Thiersault.